La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous vu donner à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus aller te voir ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
Merci d'abord à vous tous pour cette invitation. C'est un véritable plaisir et un honneur d'être avec vous. Je retrouve avec émotion un certain nombre de visages dans cette assemblée. Je n'en suis peut-être pas le doyen, mais ça va bientôt arriver. Je connais certains d'entre vous depuis, je faisais le calcul ce matin, depuis 60 ans. Et pour d'autres, c'est un peu plus récent. Vous le savez peut-être, j'ai été le trésorier de l'Union et donc à ce titre-là, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre vous qui sont des participants à l'Union ou anciens employés de l'Union. Et c'est toujours ce plaisir. Et voilà, on évoquait ce matin le sujet de l'apôtre Paul, la persévérance. Nous avons persévéré dans l'espérance. Pour moi, plus de 60 ans, 65 ans. Pour d'autres, plus récent, mais je vais vous encourager dans cette persévérance, dans cette attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques mots, donc, vous avez les salutations de la communauté de Neuilly. Pour votre gouverne, c'est une communauté qui aujourd'hui rassemble 450 personnes, avec deux groupes annexes qui ont été créés, un groupe russophone d'environ 60 personnes, que je ne compte pas dans ce nombre, et un autre qui se réunit dans une église protestante de Houille, et un autre dans une église protestante, c'est un groupe, ça s'appelle Open Up maintenant, l'ancienne église de l'espérance, si ça vous dit quelque chose, qui se rassemble, pour faire simple, dans une paroisse à Courbevoie. Et qui dépend de Neuilly également. Donc, une assez grande diversité, je reconnais. Donc, vous avez les salutations de cette communauté particulièrement. Avez-vous lu récemment un livre et qui m'a impressionné? Ça date de cet été, qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge ». Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici? Quelqu'un l'a lu? Non. Alors, « La civilisation du poisson rouge », l'auteur dit la chose suivante. Il analyse le fonctionnement du poisson rouge et il dit pourquoi les poissons rouges ne se suicident pas. Vous allez dire c'est complètement absurde et non, parce que voilà un poisson qui va tourner dans son bocal en permanence et franchement si quelque chose comme ça vous arrivait, la seule solution c'est de se suicider. Alors pourquoi le poisson rouge ne se suicide pas? Vous allez comprendre, j'aime les paradoxes. Hein. C'est parce que sa mémoire ne dure que 9 secondes, d'accord? Donc le temps qu'il fasse le tour du bocal, il redécouvre le monde. Bon, donc il ne se suicide pas, puisque au bout de 9 secondes, il redécouvre le monde. La problématique, c'est que les outils de communication actuels sont tels que notre attention n'est demandée aujourd'hui que pendant 8 à 9 secondes. Au travers des outils Internet qui nous abreuvent de toutes ces informations. Et la problématique, c'est que le monde, en majorité, ne réfléchit plus. On subit cette information et 9 secondes après, on a oublié, on est passé à un autre sujet. Et face aux événements dramatiques que nous sommes en train de vivre, qui s'appellent l'immigration, qui s'appellent les problèmes économiques, qui s'appelle la pollution, l'écologie, les risques nucléaires, et j'en passe. Ouvrez la télévision, hein, il y a 65 ans, quand j'étais adventiste, je me suis fait baptiser, on parlait de la fin du monde, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, ne parlez plus de la fin du monde, il suffit de dire aux gens, ouvrez la télévision, ça suffit. Et ils auront encore plus de renseignements. Et face à tout ça, des solutions simplistes sont en train de se développer. Du style, alors voilà, la Terre est plate. Allez sur Internet, vous allez voir. Il paraît qu'il y a 10% de la population française qui croit aujourd'hui que la Terre est plate. Attendez, l'absence de réflexion que cela induit. Une frange de la population ne croit pas que l'homme a marché sur la Lune. Je vous signale qu'aujourd'hui, avec les télescopes puissants, on peut voir encore les traces de pas de la Terre. Et donc se crée un certain nombre de radicalisations, d'autoritarismes que l'on est en train de voir, basés sur des idées simples, simplistes. Et regardez ce qui se passe en ce moment, c'est on ne veut plus d'immigrés. Terminé. De toute façon... On va faire l'écologie, c'est pas la peine. Je cite Bolsonaro, je cite Trump. Et ce sont des événements que nous vivons aujourd'hui. Et on assiste à une montée des religions, et ça aussi c'est inquiétant, au niveau de la politique. Bolsonaro soutenu par les évangéliques, Trump soutenu par les évangéliques, de l'autre côté Poutine soutenu par l'orthodoxie, et ainsi de suite. Et face à ces montées-là, je reconnais que les réponses ne sont pas simples. Et j'ai envie de vous dire que la Bible nous donne un certain nombre d'exemples là-dessus et nous oblige à la réflexion. J'ai donc appelé ça la tension, un élément structurant de notre pensée. Je ne dis pas les oppositions, mais je dis la tension. Parce que si nous nous focalisons sur une idée simple, peut-être juste, mais en oubliant celle avec laquelle elle est en tension, on va devenir sectaire. Et je vais vous donner des exemples. Prenons la nature de Dieu. Dieu est un Dieu lointain. Il a créé l'univers. Et aujourd'hui, la science nous montre quelle est l'étendue de l'univers. Vous regardez le ciel, la Voie lactée, les étoiles les plus longues sont à 100 000 années-lumière. C'est-à-dire que la lumière a mis 100 000 ans pour venir. Ça veut dire qu'elles existent au moins depuis 100 000 ans. Il y en a d'autres, quand vous voyez des étoiles, en fait c'est des galaxies, elles sont à des millions d'années. Donc la lumière... Et tout ça a... Dieu nous dit, j'ai créé tout ça. Donc un Dieu puissant, un Dieu lointain, si vous voulez aller sur Internet, vous verrez qu'il y a une planète, on vient de la découvrir, c'est du carbone, très comprimé, très chaud. Et le carbone très compliqué, très comprimé et très chaud, c'est du diamant. Donc imaginez une planète un peu plus petite que la Terre, du diamant pur. Dans l'éternité, si ça vous intéresse, vous pourrez y aller et vous faire une petite bague, ça ne coûtera pas grand-chose. Mais en même temps, c'est un Dieu proche. Il est lointain, il a créé l'univers, et si vous ne pensez qu'à ça, eh bien, c'est un Dieu inaccessible. Comment peut-il s'intéresser à ma petite vie, à moi ? Mais en même temps, Dieu nous dit, je suis au milieu de vous, c'est un Dieu proche, il a accepté de s'incarner, de vivre, de mourir. Sur la croix, pour moi. Et il nous dit maintenant, je suis au milieu de nous. On l'a chanté, Jésus vient en nous. Et donc, nous vivons avec cette tension d'un Dieu lointain et d'un Dieu proche. Si vous ne conservez que le Dieu proche, eh bien, vous allez dire, c'est tout simplement un bon penseur, un bon philosophe. Et vous vous arrêtez là. Et c'est la tension qu'il y a entre ce Dieu proche et de ce Dieu lointain qui fait que vous avez une perception de ce que peut être la nature de Dieu. Mais ne dites jamais que vous comprenez Dieu. Prenez une autre tension qui existe, le salut par la grâce. Le salut est un don de Dieu, c'est clair. Je pense que tout le monde, hein, la réforme, on a quand même ça en tête, le salut par la grâce. Si vous poussez ça et uniquement ça, et je l'ai entendu d'un pasteur protestant à un moment donné, une fois sauvé, toujours sauvé. Ça va devenir la grâce à bon marché. Mais inversement, vous avez, Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Et à ce moment-là, ça a été pendant longtemps pour le christianisme le salut par les œuvres. Et dites-vous qu'aujourd'hui, par exemple, il existe une théologie qui s'appelle la théologie de la prospérité, qui est préconisée par un certain nombre d'évangéliques, je le combats fermement, qui dit la chose suivante. Écoutez-moi bien. Si vous priez bien, vous serez physiquement guéri toutes les fois. Et si vous n'êtes pas guéri, c'est que vous avez mal prié. Donc pour les gens qui ne sont pas guéris, la double peine. Hein, la double peine. Et si vous donnez fidèlement votre dîme, vous serez riche. Et comme vous serez riche, eh bien, anticipez de donner des dîmes et empruntez pour ça. Ça s'appelle du racket. Et ça, il y a une église au Brésil qui aujourd'hui préconise cette théologie et qui revendique 5 millions de membres. Et donc, vous voyez, c'est du salut par les œuvres. Hein. Et donc, ou c'est la manipulation de Dieu. Voilà, je prie et je manipule Dieu. Dieu fait ça. Tu es à mes ordres. C'est impensable. Eh bien, voilà, le salut par la grâce, don de Dieu, et en même temps des œuvres à faire. On va parler d'Adra, rassurez-vous. Écologie et eschatologie. Eschatologie, vous connaissez le texte de Pierre, hein ? Tout doit être détruit, hein, ce monde va être détruit par le feu. Donc s'il doit être détruit par le feu et rapidement, hein, puisque nous croyons un retour du Christ imminent, pourquoi faire de l'écologie? C'est un problème, hein. Regardez bien le texte et vous verrez que la purification, le feu, c'est une purification. Il n'est pas dit que la terre va être entièrement détruite. Elle va être purifiée et amenée à quelque chose de spirituel. Ça exige une certaine réflexion. Maintenant, si vous partez sur l'écologie et l'écologie pure, vous allez me dire, parce que je l'ai entendu aussi, qui est aussi une hérésie, une absurdité, si vous mangez de la viande, vous serez perdu. Voilà. Vous l'avez certainement entendu aussi. Et donc, voyez les deux extrêmes. Nous sommes dans une entente eschatologique, qu'on a étudiée ce matin, l'entente du retour de Christ, et en même temps, nous devrions être les premiers écologistes. Pour essayer d'arrêter, de ralentir le désastre vers lequel nous courons. Vous savez que cette tension, nous la portons dans notre nom. On s'appelle comment ? Adventiste du septième jour. On est bien d'accord ? Adventiste, attente, attente du retour du Christ. On en a parlé, mais du septième jour. Le septième jour, c'est du concret, c'est maintenant. C'est pas dans l'éternité, c'est aujourd'hui le septième jour. C'est le travail, c'est le temps, le sabbat n'est pas le temps de travail, c'est le temps d'adoration, certes, je le sais bien, ce serait plutôt le temps du repos, mais ça veut dire que ça nous ramène à la création où il a été dit à l'homme, tu travailleras six jours. Et donc on voit bien que, si vous voulez, cet adventiste du septième jour, nous portons cette tension. Là, je vais être un peu raide, vous pourriez de m'en excuser, mais j'ai lu, pas plus tard que sur Internet, hier ou avant-hier, des trucs qui me gênent profondément. Cette attente est tellement forte chez certains, j'allais dire qui se disent adventistes ou qui l'ont été, mais je crois qu'ils sont en train de partir, fort heureusement, qu'aujourd'hui, et l'association, elle porte un nom, elle s'appelle le Grand Cri, vient d'annoncer que la fin du temps de grâce était en novembre 2019. Allez sur Internet, regardez les vidéos qu'ils ont mis en place. C'est pathétique, c'est consternant. Consternant parce qu'en même temps, ils disent, si vous ne croyez pas à notre interprétation, vous êtes perdus. Donc ils se mettent à la place de Dieu. Ils affirment qu'eux ont la capacité de vous dire que vous êtes perdus ou non. Il me semble que ça, c'est du domaine de Dieu. Et donc, ils oublient qu'il existe un temps de Dieu et un temps des hommes, et que ce temps n'est pas le même. La Bible le dit, pour Dieu, un jour est comme mille ans, mille ans sont comme un jour. C'est un temps particulier. Le temps de son retour, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Et en attendant son retour, qui est son problème, il me dit maintenant, sur terre, tu es du septième jour, tu travailles. Tu œuvres. Tu n'oublies pas le sabbat, évidemment. Adventiste du septième jour. Et vous voyez combien, si nous devons vivre avec cette tension, adventiste du septième jour, dans une attente, mais attention, l'attente et le jour de l'attente, c'est du problème de Dieu, c'est pas le mien. et du septième jour. Mais aujourd'hui, il nous dit maintenant, toi, que fais-tu? Reprenez les paraboles et vous verrez comment cela se passe, comment Jésus positionne ça. J'en viens à Adra, quand même. Adra, j'ai été le président d'Adra, je suis toujours membre d'Adra, président d'honneur. Je sais que la notion de président d'honneur pose problème, si vous voulez, il y a des gens qui ont été présidents d'honneur. Bon, je suis également le responsable, le président de la fondation Adra. Il existe une fondation Adra. Je vous parlerai, je vous dirai quelles sont les particularités. Outre Adra, il existe une fondation Adra. Quand vous prenez le texte que nous venons de lire de Matthieu 25, je ne sais pas si quelque chose vous choque. Alors, c'est vrai que c'est toujours le texte que nous citons quand on parle d'Adra. Hein. Adra, Matthieu 25, hein, puisque là, clairement, le jugement dernier, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et avec tous les anges, il s'assiera, il mettra les bons à sa droite, les mauvais à sa gauche. Et voilà. Et venez, qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu me voir. Très bien. Comme c'est au plus petit que vous les avez fait, mettez-vous sur ma droite. Ça peut être dérangeant à première lecture, et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir. Parce que ça semble fichtrement être le salut par les œuvres, non? Vous avez fait, et vous êtes sauvé. Mais c'est en contradiction avec ce que nous dit la Bible. C'est pas le salut par la grâce, ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder bien attentivement le texte. Parce qu'en fait, on lit souvent ces textes, on les connaît bien, mais regardez bien. Jésus va dire, et les gens répondent, mais quand avons-nous vu étrangers, avons-nous recueilli ou nus, ou en prison? Et le roi leur répondit, je suis au verset 40, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait cela, pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il suffit de l'avoir fait à un. À un seul. Et vous l'avez fait parce que c'était un frère. Donc apparaît là quelque chose de particulier, c'est que ces gens ont fait à un frère, donc entre nous par amour, vous me voyez venir certainement, et ils ne l'ont fait qu'une fois. Et pour ceux qui sont perdus, il leur répondit, Jésus dit, Seigneur, puisque c'est le même texte qui est en parallèle, quand n'avons-nous pas vu avoir faim ou soif, étranger ou malade, et nous mettre à ton service? C'est manifestement des gens quand même qui connaissaient Jésus. Alors il leur répondit, amen, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits. Un. Il suffit que nous ne l'ayons pas fait pour un, pour être perdu. C'est ce que dit le texte. Et on voit bien qu'au travers de ceci, indirectement, est-ce que les gens l'ont bien compris, mais à nous de le comprendre, c'est un salut par la grâce et pas par les œuvres. Parce que si c'était par les œuvres, il aurait fallu que nous fassions en permanence. Donc c'est un salut par grâce accordé à des gens qui ont agi par amour, par rapport à des gens qui ont agi par intérêt. Et donc la problématique de Adra, puisque je reviens à mon titre, c'était est-ce qu'Adra est au cœur de la philosophie adventiste ou à la périphérie? Et c'est une question qui nous est souvent posée dans les églises. Finalement, Adra, est-ce que c'est la vocation de l'église que d'être Adra? Alors je sais, Adra porte le terme adventiste, Adventist Development and Relief Agency, d'accord. Mais quand même, est-ce que le cœur de la mission, et c'est dans le même chapitre, et c'est juste à peine plus loin, Matthieu 28, 19, vous connaissez ce texte par cœur, certainement, où il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là aussi, il va partir et puis il va être avec nous tous les jours. On vit cette tension, cette contradiction. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prêcher où il faut être adroit. Vous me suivez? Et sachez que parfois dans les églises, on a cette tension. La vocation de l'église, c'est l'évangélisation, c'est les baptêmes. La vocation d'adroit, c'est le social, c'est l'humanitaire. Donc vous êtes à la périphérie. Sauf Matthieu 25 qui dit, attendez, le cœur, c'est adroit. Le reste, c'est à la périphérie. Alors, vous voyez comment vivre cette tension entre les deux. Comment vivre avec, non pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et je dois vous dire qu'au niveau d'Adra, il est clair que sur le plan juridique et sur le plan de la loi française et des lois internationales, Adra ne fait pas de l'évangélisation au sens où vous pourriez l'entendre, du style « prêcher l'évangile ». Pourquoi? Parce que les personnes qui sont en face de vous sont en position de faiblesse. Et donc, tenter une prédication face à des gens qui sont en situation de faiblesse est éthiquement irresponsable et juridiquement mauvais. Et c'est pour cela que ADRA est une organisation de loi 1901 séparée de l'Église, qui, elle, est une association de loi 1905. Et donc, dans les statuts d'ADRA, il est clairement dit qu'on ne va pas faire de l'évangélisation. Mais alors, on peut nous dire, mais attendez, à quoi sert cette mission de l'Église? Ce que nous rajoutons est la chose suivante. C'est qu'au travers de ce que nous faisons, les gens ont le droit de nous parler et de nous poser des questions. Et on a le droit de répondre. Nous sommes encouragés à répondre. Mais pourquoi vous faites ça? Et là, on peut le faire. C'est une réponse à une question, ce n'est pas une évangélisation au sens « j'impose mes vues ». C'est trop facile de dire « venez à l'église, vous aurez un repas hein ». Ça, interdit. Mais par contre, je donne un repas. Mais pourquoi vous donner un repas? Parce que j'ai une espérance. Parce que je crois en Dieu. Ah bon? Et vous qui venez de loin, pourquoi vous faites ça ici? Pourquoi vous passez votre temps? Pourquoi vous passez votre énergie? Et là, vous avez la possibilité de répondre. Et donc, si je reprends le positionnement institutionnel de ADRA, donc autant, quand je vous parle de loi 1905, 1901, ça va? Non, pas bien? Pas clair? Bon. La loi 1905, les associations cultuelles, c'est la France, hein, c'est comme ça, c'est l'exercice exclusif du culte. Et les lois de 1901, c'est peut-être des trucs comme ADRA avec des ONG. ADRA est contrôlée par un commissaire aux comptes, vous le savez peut-être. La fondation ADRA est contrôlée par un conseil d'administration dans lequel il y a un représentant de Bercy, ministère des Finances, et un représentant du ministère de l'Intérieur, pour s'assurer que cette institution, il y en a plusieurs, mais que cette institution respecte les règles de l'État français. En d'autres termes, les dons que vous donnez à ADRA, alors là je fais de la publicité pour ADRA, outre le fait que vous avez droit à un reçu fiscal, que vous pouvez faire des legs, des donations, ainsi de suite, sont largement contrôlés, et je rajouterai également un contrôle interne de l'Église adventiste qui s'appelle la JICAS. Difficile à vivre, c'est compliqué quand on est trésorier, parce que j'ai été le trésorier de cette organisation aussi, donc avoir tous ces systèmes de contrôle, mais finalement, si vous voulez, quand à la fin de l'année, le commissaire aux comptes vous dit qu'il certifie les comptes qui sont sincères et véritables, c'est quand même une excellente chose, et ça a toujours été le cas pour ADRA. Je terminerai par un exemple de cette tension entre le cultuel et le social, dans un texte qui est magnifique, qui se trouve dans Marc, au chapitre 14, et au verset 3 à 9. « Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers, 10 000 euros, hein, pour, si j'actualise, et le donner aux pauvres. Et ils s'emportaient contre elle, mais Jésus leur dit, « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous? Elle accomplit une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, je vous l'ai dit, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme, ce qu'elle a fait. » Tension. Tension entre une femme qui verse un flacon, hein, vous connaissez ça, 10 000 euros, voilà, moi je suis trésorier, hein, j'ai été trésorier de l'Union, voilà, et puis 10 000 euros, parti en fumée. Et le trésorier de l'époque, alors je ne sais pas si c'est Judas ou les disciples, disent, enfin, avec cet argent, on aurait pu faire beaucoup de bien. Et vous avez vu la réponse de Jésus, la tension, hein, entre cette partie spirituelle et matérielle. Alors, le geste de cette femme, je vais vous en dire un peu plus. Vous avez déjà senti du nard? Qui a senti du nard ici? Il se trouve que j'en ai eu un jour sur la main. Le nard est un parfum très fort qui sert en fait d'additif à d'autres parfums. Il vient d'une fleur qui pousse dans l'Himalaya. Et cette fleur a deux vertus, été considérée comme avec deux vertus du temps de la Bible. Première vertu, embaumer les corps, Jésus en parle. Deuxième vertu, ce flacon était un flacon que les mères se passaient de mère en fille, parce que le nard avait la vertu d'éviter l'infertilité pour les femmes. Il leur permettait d'avoir des enfants. Le nom de cette plante, la traduction, c'est « esprit incarné ». Lorsque cette femme verse ce parfum, elle a en tête, vous remarquez, elle ne dit rien, hein, elle ne dit rien. Et pourtant, son geste va être reporté jusqu'à la fin des temps, et elle va faire quelque chose que les disciples auront beaucoup de mal à comprendre. Si vous lisez le texte avant, et c'est ça la vertu de l'étude, vous verrez que Pierre s'indigne avec Jésus en disant « tu vas pas mourir, on va te défendre » et que Jésus est obligé de le reprendre. Et cette femme, par ce parfum, accepte la mort du Christ. Chose que les disciples n'ont pas fait. Et en plus de ça, c'est un parfum de vie. Jésus a porté ce parfum pendant... Il va mourir 3 jours après, jusqu'à sa mort. Il sentira ce parfum sur lui. Et donc, il se souviendra de cette femme qui a accepté sa mort et qui accepte également son incarnation en tant que Dieu. Extraordinaire. Je crois qu'il n'y a qu'une femme pour arriver à faire ça. Et elle ne dit pas un mot. Jésus la reconnaît. Et vous voyez la tension entre la spiritualité d'une part, et puis les disciples qui sont sur le matériel. 10 000 euros, quand même, on peut faire quelque chose avec. Eh bien, on fait les deux. On fait les deux. Et donc, à la fois, cette femme qui va porter un regard spirituel, une vision magnifique sur le futur, et en même temps, eh bien, les pauvres, vous en aurez toute votre vie. Et c'est le cas aujourd'hui encore. Et c'est de plus en plus le cas. Et on a de plus en plus le besoin, à la fois de fonds et d'argent, pour aider les populations pauvres. Adra est aussi en tension dans l'Église adventiste. On ne peut pas se focaliser que sur l'un, mais il faut se focaliser et sur l'un et sur l'autre. Marthe et Marie, vous trouveriez des exemples fantastiques dans la Bible. Ma conclusion est la suivante. Je pense que, en tant qu'adventistes, n'oublions jamais ça. Nous vivons dans cette tension de choses qui peuvent apparaître contradictoires. Évitons de nous laisser embarquer dans des explications simplistes, qui se veulent simplificatrices, mais qui sont simplistes. Si vous voulez, même chose, quand quelqu'un me dit « j'ai la vérité », je sursaute. La vérité, c'est Christ. Dire « j'ai la vérité », analysons bien la situation. Ça veut dire « j'ai Christ, j'ai la connaissance de Jésus-Christ ». Non, mais ils se prennent pour qui? Dire que nous sommes sur un chemin de vérité, oui. Mais avoir la vérité, c'est posséder Dieu. Comment peut-on dire qu'on maîtrise le temps de Dieu également? Dieu nous dit, vous avez des dons, utilisez-les, à votre, au niveau où vous êtes. Et j'ai envie de vous laisser, parce que je vois que le temps passe, et je vais me faire gronder, et vous avez à juste titre. Et donc, je resterai toujours sur Matthieu, finalement. Matthieu va nous donner également cette tension, cette contradiction. Et je vous laisserai sur la réflexion là-dessus. Ah, 22:34, j'avais dit, merci. Donc nous sommes toujours dans Matthieu. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Hillel, maître à penser de Gamaliel, lui-même maître à penser de Paul. Donc Hillel, 50 ans avant Jésus-Christ. L'histoire raconte la suivante. Un homme est venu vers lui en disant, maître, peux-tu me dire peux-tu me résumer la loi? Mais je vais me mettre sur un pied. Tant que je reste en équilibre, tu peux parler. Mais dès que je perds l'équilibre, tu t'arrêtes. Hillel a accepté. Et Hillel a dit, en citant l'Ancien Testament d'ailleurs, tu aimeras le Seigneur, la loi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Il a rajouté, le reste n'est que commentaire. Le reste n'est que commentaire. Jésus reprend ceci et recite l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement. Tiens, tu aimeras Dieu. Mais l'attention, c'est et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on est dans Matthieu 25. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que ton prochain, tout simplement, c'est à un moment donné l'incarnation ou la représentation de Dieu lui-même. Je vous laisse sur cette tension. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu aimeras l'Église, pour faire simple, si je résume, et tu aimeras Adra. Désolé pour ce raccourci, beaucoup trop simpliste. Mais quand même, je vous souhaite un bon sabbat. Amen.